ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
C'était 1992-93. On s'était renseigné pour savoir si le lieu était disponible, de quelle manière, et on a vite compris qu'en fait il était voué à l'abandon. Et comme ils nous ont dit non officiellement, ben on l'a pris officieusement pour un ensemble de gens qui en ont besoin.
Ça peut être pour des âgés, des assemblées générales de lutte, des résidences d'artistes.
Et on fait du pain tous les dimanches et tout le monde est bienvenu pour venir voilà, apprendre, partager les savoirs, faire du pain, faire des pizzas, se rencontrer.
J'ai toujours eu l'impression que c'est un lieu un peu magique. Je me souviens très bien la première fois que je suis venue. C'était en soirée de relâche du lundi soir. Et j'avais la sensation que l'air qu'on respirait ici, l'atmosphère, la façon dont les gens étaient en relation, était vraiment d'une autre matière que la plupart des lieux que j'avais pu vivre avant.
Un lieu alternatif où il s'y passe pas mal de choses. Bon, on connaît la relâche qui est un lieu très connu, etc. Il y a aussi des AMAP, des points de réunion. Mais c'est un lieu qui permet quelque chose qui nous manque essentiellement aujourd'hui, qu'on perd de plus en plus, c'est un dialogue social, un échange, où on peut rencontrer différents gens de différents horizons.
Un lieu de liberté. On peut s'exprimer, on peut parler, on peut causer, on peut dialoguer, on peut apprendre. C'est extraordinaire. Mais c'est pas dirigé par n'importe qui, c'est chacun qui apporte son intelligence collective. Moi, je trouve ça sensationnel.
Moi, je crois que sur 20 ans, finalement, ce projet politique, il est là.
Alors, mon histoire, j'ai découvert la chapelle en 2008-2009. Je venais en tant que client, c'est le cas de dire. Et comme je dormais dans un local à vélo, dans la rue Casanova, et il y a des gens de la chapelle, des bénévoles de la chapelle, qui ont su que je dormais là. Et puis un beau jour, ils m'ont demandé de venir leur donner un coup de main le dimanche après-midi. Et puis en 2011, grâce à un bénévole, il m'a proposé un appartement. Et pour remercier tous les gens, les bénévoles, les gens de la chapelle, eh bien, j'ai décidé de m'engager pour combattre avec eux, pour pouvoir garder le lieu le plus longtemps possible. Voilà.
La mairie est propriétaire du lieu depuis 2009. Elle avait racheté le lieu en 2009 en faisant préemption. Donc elle est propriétaire, on discute avec elle depuis ce temps-là. Ça s'est un peu accéléré ces derniers temps. Et du coup, ils sont au moins disposés à nous signer un bail emphytéotique, c'est-à-dire un bail sur le très long terme avec un loyer symbolique. En tout cas, on discute pour que ça aille dans ce sens-là. Et l'idéal pour nous, ce serait aussi de racheter le lieu, puisque là aussi, ils seraient d'accord pour le vendre.
L'issue proposée aujourd'hui, qui est d'arriver à racheter ce lieu, moi, elle m'intéresse. Non pas parce que je veux être propriétaire, mais parce que je pense que justement, arriver à acheter ce lieu, c'est briser cette notion de propriété. C'est-à-dire qu'effectivement, si un collectif, que ce soit le fonds de dotation, achète ce lieu, il appartient à tout le monde. À tout le monde, donc à personne. Il n'y aura plus cette menace sur « ah ben c'est l'église, ah ben c'est la mairie change, ah ben il manque un local pour ci, un local pour ça ».
La mairie, en fonction des difficultés politiques, peut tout d'un coup encore nous virer, quoi. On n'est pas encore maître chez nous, là.
Donc moi, je pense que la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est que les gens qui ont 3 francs 6 sous ou 40 milliards d'argent, là, eh bien, ils nous aident à l'acheter.
Et voilà, j'invite tous les copains, la famille, les amis, voilà, à donner ce qu'ils peuvent. Hein. Pareil pour continuer à garder ce lieu où on respire de l'oxygène en ville. En fait, c'est vrai qu'en ville, il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de consommation, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ici, c'est vraiment une bulle d'oxygène, quoi.
Bonjour, quelques nouvelles de la chapelle depuis 2017. En 2018, nous avons signé un bail emphytéotique avec la mairie. Il s'agit d'un bail de 40 ans avec un loyer annuel de 500 euros. Ce bail contient notamment une clause permettant le rachat du lieu pour 100 000 euros. Mais il fallait cependant mettre le lieu aux normes. Durant toutes ces années, nous avons donc essayé au maximum de mettre ce lieu aux normes. Nous avons fait des travaux notamment au niveau de la toiture, de l'électricité, de l'accessibilité et encore beaucoup d'autres travaux. Maintenant, il s'agit de lever cette proposition d'achat. Nous allons donc lancer un financement participatif à hauteur de 120 000 euros. Il s'agit des 100 000 euros du rachat et 20 000 euros pour les frais de notaire ainsi que le commissaire aux comptes. Nous allons donc créer un financement participatif sur Hello Asso et je vous invite tous et toutes à y participer. Merci.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2 de la bande FM. C'est la Voix du Mac qui commence, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui une émission qui va parler de la Chapelle, un lieu d'expérimentation sociale, politique et culturelle depuis 1993, mais pas que. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui... Alors normalement, il y avait Baptiste, j'aurais trouvé ça cool parce que ça m'aurait... permis de faire une espèce de jeu de mots avec Chapelle, toi. Bon, mais on a quand même Aurèle et Sarimène Chapelle. Bonjour.
Bonjour.
Et Clara. Bon, alors, Clara, bon, ben, je sais pas de vanne avec Chapelle, mais.
Salut. Bon.
Nous partons à la découverte d'un lieu unique à Toulouse, la Chapelle, plus qu'un simple espace associatif. Je mettrai une petite musique derrière. C'est un véritable laboratoire d'expérimentation sociale, culturelle et politique. Depuis plus de 30 ans, ce lieu emblématique s'est affirmé comme un carrefour de rencontres, d'engagement et de création. L'autogestion, la mixité et la solidarité sont au cœur des pratiques quotidiennes. Qu'il s'agisse de soirées culturelles, de chantiers participatifs, de rencontres militantes ou de projets artistiques ambitieux, la Chapelle est un espace de liberté, d'émancipation et de partage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire, les valeurs et les projets de ce lieu hors du commun avec ceux et celles qui la font vivre. Bienvenue à la Chapelle, un lieu où l'on imagine, où l'on crée, où l'on rêve le monde autrement. Je peux pas faire mieux, c'était...
C'est super.
Ça vous plaît ?
Ouais, ça décrit très bien, ouais. Très complet.
Ouais, c'est ma modeste participation avec cette présentation, parce que j'ai jamais fait aussi bien et aussi pro, on va pas se mentir. Donc merci d'être là, parce que vous êtes en plein marathon médiatique pour l'opération Rachetons collectivement la Chapelle. Je tenais à vous féliciter, parce que vous avez à peu près tout fait, La Dépêche, France 3, Libération, il reste Rire et Chanson et Ragondin Magazine.
Ouais.
D'ailleurs, juste pour La Dépêche, ça m'a amusé parce que je me demandais si vous pensiez de ça. Il y a un article favorable qui fait même le lien vers la cagnotte. Et je pense qu'il y a quelques années, La Dépêche a dû faire des articles pas réellement flatteurs sur les squatteurs fainéants. Ça vous fait marrer, ça ? Vous en pensez quoi, ça ?
Il y a un rapport un peu pragmatique et aussi politique, hein, à l'égard des journalistes et des médias pour La Chapelle. On a donné mandat en fait sur des sous-groupes de travail. Donc cette question de La Dépêche, c'était aussi parce que La Chapelle, dans son histoire, avait eu un lien avec un journaliste en particulier il y a fort longtemps, dont on savait qu'il allait servir aussi notre cause. Je ne sais pas si c'est le même journaliste qui a fait cet article aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que politiquement, politiquement, La Chapelle questionne aussi ce journal-là et d'autres par rapport aux autres luttes qui peuvent être menées et aux discours pro-capitalistes et pro-... pro-bourgeois qui peuvent être prônés par ce journal.
Après, je pense que dans le discours, ce qui a été abordé, c'est que, enfin, on sait très bien que la Dépêche peut avoir un discours totalement anti-squat. Et je pense que ça a été un peu questionné à quel point, du coup, quels sont les médias, on va dire, amis et les médias pas amis. Comment on fait cette différence-là? Comment on arrive à du coup, est-ce qu'on garde qu'une liste de médias et on en referme une autre? Après, je pense que aussi les médias entre eux se passent le mot et que dans tous les cas, si des médias commencent à faire un article sur par exemple La Chapelle, les autres vont forcément relayer. Donc après, c'est aussi le discours qu'on contrôle et les journalistes qu'on arrive à avoir. Dans tous les cas, j'ai l'impression que tous les journaux médiatisent un peu les mêmes sujets. Donc, mais c'est sûr qu'il y a une réflexion à avoir et je pense que la Dépêche n'a pas toujours été favorable au squat ni à certaines luttes que défendent La Chapelle comme l'anti-impérialisme et autres. Et du coup, c'est bien de le garder en tête aussi.
Ouais, carrément.
Nous ne sommes pas dupes.
En tout cas, là, il y a un objectif de toute façon clair qui est cette campagne de financement pour acheter collectivement La Chapelle. Donc là, je suis sur les derniers chiffres, ça vient de tomber. Donc il restait 1500 euros là à midi 15. Donc sur les 150 000 quand même, il reste 6 jours. On peut quasiment dire que c'est fait.
Oui, c'est quasiment fait. Il y a eu des paliers émotionnels durant cette campagne. C'est vrai qu'on l'a lancée il y a 2 mois, début octobre, avec un premier long travail d'appeler des personnes ou des collectifs pour récolter des engagements de dons, parce que l'idée, c'était de partir avec 10% de la cagnotte, donc 15 000 euros. Il nous fallait récolter 15 000 euros avant de la lancer. Dès qu'on l'a lancé, il y avait la première somme qui est arrivée et puis voilà, il y a eu des hauts, des stagnations. Ça a été un travail beaucoup de communication, de réseaux sociaux, d'émissions de radio aussi. Je crois que, en tout cas, moi, j'ai commencé à souffler un petit peu en me disant, bon, il faut qu'on arrive au moins aux 80 000. Et si on arrive à 80 000, on va limiter la casse. Et donc, j'ai un peu soufflé quand j'ai vu que la barre des 80 000 était passée. Et après, quand j'ai vu qu'on s'approchait des 100 000, je me suis dit, bon, c'est bon. Ça y est, on va limiter. On avait envisagé des prêts, mais c'était pas confortable parce qu'on a toujours fonctionné sur le fait de ne pas endetter La Chapelle, justement, pour ne pas avoir une dépendance financière et à générer absolument de l'argent pour rembourser, quoi. Donc c'est super que cette cagnotte elle ait dépassé le premier palier des 120 000 parce que déjà ça nous permet d'acheter en cash. Voilà, on les pose sur la table auprès de la mairie. Et,
une petite coupure.
En petite, je sais pas.
Sortir de la banque.
Mais en tout cas, ça permet d'acheter sans emprunt et ça nous permet d'arriver aux 150 000. Ça nous permet vraiment d'acheter déjà du matériel de base qu'il nous faut pour que les événements à La Chapelle ils se passent au mieux. Et pour tous les collectifs et tout le monde. Et en tout cas, La Chapelle, c'est une vieille dame qui se rénove d'année en année. Et donc, tout l'argent qui est en plus des 150 000 vont être vraiment utilisés pour le lieu et uniquement pour le lieu, quoi.
Émotionnellement, vous êtes comment là? Vous êtes fatigué? C'est vraiment genre les derniers moments où on garde un peu d'énergie parce qu'on sait que si on commence à lâcher, ce sera... terrible de s'en remettre.
Bah, je pense que ça va. Je pense qu'il y a quand même le planning est assez serré entre du coup comme La Chapelle a réouvert, on a quand même pas mal d'accueil et en même temps ça fait très plaisir. On a quand même pas mal, on a un petit emploi du temps entre les interviews, les radios, les lieux, qui du coup les soirées de soutien, les soirées qui sont en soutien à La Chapelle, par exemple aussi des ventes d'affiches ce week-end à l'American Cosmo qui vont aller pour La Chapelle. Donc faut quand même un peu tenir le rythme et le planning, mais je pense que ça fait aussi du bien de se dire qu'on arrive au bout, qu'ensuite, en plus aussi la réflexion sur les statuts et tout ça qui prend quand même pas mal de temps, mais ça fait du bien de se dire qu'on arrive au bout et que ça va se concrétiser et puis qu'après La Chapelle elle va pouvoir reprendre son rythme effréné, vu que là on a quand même pas mal de personnes qui nous soutiennent et qui sont usagères du lieu et qui veulent qu'il s'y passe des choses et du coup ça, en même temps ça fait du bien. Ça fait du bien de... Enfin, c'est parsemé, quoi. On a toute la réflexion derrière, mais on a aussi tout ce côté où La Chapelle, elle vit, et ça faisait longtemps que ça n'avait pas été comme ça, donc ça fait plaisir.
Ouais, parce que c'est pas pour du vide derrière, au contraire, c'est pour maintenir et continuer l'aventure, comme tu dis, et ça a repris la relâche. Enfin, il y a de plus en plus d'événements.
Oui, on a énormément de demandes, en fait. À partir du moment où on a communiqué sur, je crois que c'était en novembre, la réouverture, comme dit Clara, ben, en fait, on a toutes les semaines, là, tous les jours, il y a des demandes qui... Enfin, nous, on se réunit toujours une fois par semaine, et c'est vrai que bah, ça prend tout notre temps de réunion, d'étudier les demandes, de savoir comment caler dans le calendrier. Et c'est là où on voit bien qu'en fait, la chapelle, c'était un outil de lutte aussi pour les collectifs, parce qu'il y a un défaut de lieu pour se rencontrer, pour créer nos luttes. Et la chapelle, elle répond aussi à ça, en fait. Et elle répond aussi à ce besoin où en tout cas, on va faciliter l'accès pour des luttes qui nous parlent et qui nous parlent depuis longtemps et qui ne sont pas forcément bien accueillies dans d'autres espaces de la ville de Toulouse.
D'ailleurs, qu'est-ce qui différencie la chapelle d'autres lieux associatifs à Toulouse ?
Bah, je pense qu'il y a son histoire où l'histoire de la chapelle a quand même été assez forte, vu qu'on part d'un squat, on parle d'un lieu qui a été autogéré, qui a quand même vécu 30 ans d'existence, donc il y a eu le temps de tester pas mal de choses, de se rendre compte de ce qu'on veut affirmer au sein de ce lieu. C'est aussi un repère pour pas mal de collectifs, puisque c'est un lieu qui est ancré, qui est quand même assez périn par rapport aux autres. Après, c'est un lieu qui est quand même, enfin, dans son quartier, bon, qu'on pense qu'à Farelli, Arnaud Bernard, c'est un quartier un peu étrange, on va dire qu'il y a Arnaud Bernard d'un côté et puis le conseil départemental de l'autre, donc la position est assez spéciale. Et puis c'est juste, je pense que c'est un lieu aussi qui est grand, qui permet d'accueillir beaucoup de choses, qui permet d'accueillir beaucoup de formats de lutte, parce qu'on a très peu de lieux à Toulouse et la plupart des lieux ils sont quand même pas très grands, donc c'est compliqué pour faire des grandes AG, c'est compliqué d'avoir un accès à un jardin, un lieu un peu qui respire, à pas se faire opprimer dans la ville tout le temps, avoir un lieu qui peut être une base arrière de manif et permettre d'accueillir toutes ces personnes là. Et du coup je pense que c'est à la fois son histoire et puis le fait qu'il soit vraiment à Touste depuis longtemps et qu'en fait tout le monde a envie d'en prendre soin, et en fait on sait politiquement comment on veut défendre ce lieu, et du coup c'est on va pas se mentir, c'est quand même un grand lieu au cœur de la ville, quoi. Donc je pense que c'est ça.
Oui, c'est assez central. On l'a rendu accessible aussi, ce lieu, avec les travaux de mise aux normes. Ça facilite les différents espaces. Et puis aussi, c'est un lieu, au-delà des différents collectifs, c'est aussi un lieu pour... artistique aussi. On voit bien que les lieux de résidence culturelle et les projets de création manquent aussi pour les petites compagnies. Et c'est là où la chapelle aussi, elle a un spectre large d'accueil, avec quand même une ligne politique qui est là, quoi. C'est-à-dire que on va pas accueillir tout le monde malgré tout. Mais par contre, les luttes qui galèrent, les luttes qui vont dans le sens de l'anti-impérialisme et de favoriser l'inclusivité au maximum, en tout cas, c'est des choses qu'on va être regardant et regardante dans nos accueils.
Voilà, l'histoire de la chapelle a été évoquée. On ne va pas nous développer. Je pense que vous le rappelez à longueur d'émission en ce moment. Il y a plein de vidéos, d'articles qui sont disponibles. Maintenant, on peut vraiment se rendre compte de ce qui s'est passé dans ce lieu, comment est né ce lieu, etc. Donc, j'ai décidé un peu de construire cette conversation autour de thématiques qui ont été au cœur de la chapelle. Clara, justement, tu parlais de la situation de la chapelle au sein de la ville. La thématique de l'urbanisme, par exemple, a fait partie de l'histoire de la chapelle, j'ai l'impression. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous aussi, perso, votre rapport à la ville, et aussi, toujours avec cette notion d'être situé, quel est le rapport avec le voisinage, et est-ce qu'il a évolué avec le temps ?
Du coup, oui, alors je pense qu'il y a un rapport assez important entre la chapelle et le voisinage. Je pense que plus on sait qu'aujourd'hui c'est un lieu qui a plus de 30 ans, c'est un lieu qui va sûrement rester 30 ans de plus et plus, on l'espère en tout cas. Et du coup on est un peu obligé de bien sûr composer avec le voisinage. Alors il faut savoir que la chapelle c'est un outil au service de collectifs, de lutte, c'est pas un lieu où on fait la grosse teuf forcément tous les soirs et Et d'un autre côté, heureusement pour les voisins, parce que sinon on aurait plus de problèmes que ça. Je pense que l'histoire avec le voisinage a été plus ou moins complexe au fil du temps. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, on compose avec nos voisins, on compose avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes outils, qui n'ont pas forcément les mêmes visions politiques. Mais j'ai l'impression que ça, on arrive quand même à s'entendre plus ou moins avec eux tant qu'il n'y a pas de gros débordements. On travaille, on fait des efforts sur la sonorité, enfin sur la hausse du son dans la chapelle, parce que bah, c'est une vieille chapelle, donc c'est pas très bien isolé. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'on s'en sort assez bien avec le voisinage. Et puis après, avec le quartier en soi et la ville, je pense que là on le ressent de plus en plus, mais en fait c'est de moins en moins facile de s'organiser dans la ville. On a du mal à manifester, on a du mal à se rassembler dans la ville. Il y a beaucoup de répression policière, il y a beaucoup de répression, toujours les sujets les plus importants. Enfin, on le voit avec la question de la Palestine, on le voit avec pas mal de sujets en cours. Et du coup, c'est vrai que se dire que la chapelle, c'est un peu une extension de la rue, mais en même temps, au vu de son cadre, en fait, on est un peu protégé, puisque c'est pas non plus la rue, et que en plus de ça, on essaie de le pérenniser et de le sortir de cette spéculation immobilière. L'idée, c'est que ça puisse rester une extension de la rue quand on peut pas y rester, et quand en fait il y a trop de répression dans cette rue là et je pense que ça, malheureusement, ça, c'est en train d'arriver de plus en plus. Et du coup, je pense que, enfin, moi personnellement, je suis contente que la chapelle puisse accueillir des formes qui se seraient passées dans la rue, ou en tout cas servir de base arrière pour protéger les personnes et nos luttes de la rue.
La chapelle, c'est aussi un refuge. Là, on parlait aussi, par extension, des problèmes de sécurité et de contrôle. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? C'est une question qui me vient par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, à Dijon, avec les lentilles, la surveillance, des caméras qui avaient été placées. Est-ce que vous, sans rentrer en mode parano, vous êtes vigilant, vigilante à la sécurité, ce qui peut se dire?
Ben, en tout cas, c'est une réflexion qu'il faut qu'on continue d'avoir sur pour que la chapelle puisse servir de refuge et d'espace de base arrière. C'est aussi penser la question de la sécurité phonique, des échanges et visuels. Après, si un jour... c'est sûr que des caméras doivent être installées devant la chapelle avec visu sur le jardin. On prêtera attention dans nos accueils à bien le faire savoir. Et c'est toujours pareil s'il y a une pression qui se met, que ce soit policière ou autre, de groupes qui viendraient faire de l'intimidation devant, dans la rue. C'est des choses qu'on prendra soin de dénoncer assez rapidement avec le soutien de collectif derrière nous, pour penser l'usage de ce lieu comme un lieu justement qui doit rester ouvert et qui doit permettre un accueil tranquille, en fait, un accès facilité. Donc sur ça, il va falloir qu'on soit vigilante, quoi.
Puis je pense qu'après, il y a déjà des collectifs qui mettent en place des fois, par exemple, sur certains accueils et certains événements, des services d'ordre, par exemple, ou en tout cas une vigilance là-dessus, une vigilance aussi du coup contre les oppressions, où c'est quand même assez important. Enfin, quand on parle d'espace safe, c'est aussi ces formes d'intimidation, en fait, d'oppression, de discrimination. Et du coup, j'ai l'impression que les collectifs qui utilisent le lieu arrivent aussi en leur sein à le faire. Mais c'est sûr que je pense qu'il faut, quand même une vigilance sur ça, sachant que la chapelle, elle a quand même été fermée en tout cas avec moins d'accueil pendant plus de 2 ans, et là ça se réouvre beaucoup, et dont du coup pour des luttes qui ont du mal à trouver leur place dans les médias et dans la rue, et qui vivent énormément de répression actuellement, et du coup c'est sûr qu'il va falloir avoir une réflexion pour pouvoir permettre de continuer à ces luttes là de venir et à se sentir en sécurité et pouvoir avoir leur place dans le débat politique encore, quoi.
Bah. Bah. Bien rengaine derrière mon bureau. Je m'emmerde à compter les zéros. J'ai le regret qui n'a pas tardé, mais le devoir qui m'a rattrapé. J'ai les conseils de ma maman et la peur de vivre vraiment. J'ai le pouvoir de ma souris, l'esprit carré de mon écran. J'ai le cancer des gens soumis et la colère des impuissants. Je suis plein de bile et ça m'énerve. Faut que ça serve, je vomis des trucs dans les urnes. Tout le fiel que j'ai dans les burnes. J'suis pas raciste, mais tout est gris. Et j'suis tout est gris. Bleh. Bien rangé derrière mon comptoir, je cerne des blanches, des brunes ou des blondes. À tellement d'arabes et de noirs qu'on se croirait citoyen du monde. Peut-être même que c'est pas eux le problème, mais peut-être ben même que je les aime. Dans tous les cas, c'est pas ma faute, faut bien que ça soit la faute aux autres. Et j'ai le cancer des gens soumis, alors je me trouve un ennemi. Je suis plein de bile et ça m'énerve. Faut que ça serve, je vomis des trucs dans les urnes. Tout le fiel que j'ai dans les burnes. J'suis pas raciste, mais j'comprends rien. Et je le rends bien. Bleh. Bien rangé dessous mon képi, je fais la loi dans mon pays. Représentant de mascarade, la parano du mascarabe. En nous interdisant au lieu de faire des contrôles aux faciès. Je vais quand même pas fouiller le bon Dieu ou les encravatés d'Hermès. J'ai le cancer des gens soumis à l'étroitesse de ma patrie. Je suis plein de bile et ça m'énerve. Faut que ça serve, je vomis des trucs dans les urnes. Tout le fiel que j'ai dans les burnes. J'suis pas raciste, mais après tout, on est chez nous. Bien rangé derrière mon ennui, à la caisse d'une épicerie de nuit. Ce soir y'a même pas une racaille, que je leur fasse voir comment je travaille. Français d'origine algérienne ou connard d'origine humaine. Oui mais français comme je respire, bien assez pour voter le pire. J'ai le cancer des gens soumis, et ouais c'est une vraie pandémie. J'suis plein de bile et ça m'énerve. Faut que ça serve, je vomis des trucs dans les urnes. Tout le fiel que j'ai dans les burnes. J'suis pas raciste, mais j'suis tendance. Vive la France! Bah.